Salut le vivant, ici Lynxar et Maxtor.
Depuis notre vaisseau Pintosaur, on explore tout ce qui s'agite, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
Nous, notre délire, c'est de manger par les oreilles.
Alors on vient s'immiscer dans Quartier Libre pour proposer un espace dédié à la création sonore.
Exploration souterraine, pistes cosmiques ou rêveries enfantines, on va vous faire voyager dans des vies parallèles, celles qu'on n'a pas l'habitude de prendre le temps d'écouter.
Ce sera peut-être magique, sucré et espiègle,
et sûrement poilu, vieux, bête et méchant.
Aujourd'hui, on aimerait vous inviter à vous plonger dans le monde du sommeil et des rêves, et aussi de la somnolence. On va vous faire écouter une série de morceaux, des morceaux de musique qui nous font un peu planer, qu'on imagine bien être la bande originale de certains de nos rêves, en fait. Et aussi des témoignages de rituels d'endormissement qu'on avait enregistrés à une occasion très spéciale, dont on va vous parler tout à l'heure.
Et à cette occasion, on a aussi rencontré Mona Journeau, qui est une artiste. Elle fait de la photographie argentique. Et il se trouve que c'est aussi notre amie. On avait envie de vous partager son travail et notre collaboration. Bonne écoute!
J'ai pas particulièrement de rituel avant de m'endormir, mais ça c'est quand je suis seul. Quand il y a ma copine, souvent quand on se met au lit, on s'installe comme ça, on a deux duvets, comme ça on est confortable et on se l'arrache pas pendant la nuit. Donc au départ je suis sous mon duvet et puis elle sous le sien. Et puis à un moment donné, moi j'ai toujours envie un petit câlin avant d'aller au lit. Un câlin, dans le sens premier du terme. Donc je quitte mon duvet, je me glisse sous son duvet, puis je me colle un peu à elle. Je lui fais quelques petits bisous sur la nuque. Après, on reste un petit moment comme ça. Et puis quand je commence à m'assoupir, je requitte son duvet pour regagner mon duvet. Et puis voilà. Et puis là, je prends une position confortable pour m'endormir et je m'endors.
Je prépare mon lit, je check en fait s'il y a des araignées, s'il y a des trucs, des petites bestioles qui se cachent. Et vraiment, je bouge les oreillers, le duvet, machin. Et des fois même le matelas. Pour vraiment dormir serein. Sinon, j'arriverai pas à dormir. Après, il me faut déjà plein d'oreillers, minimum 3. Et après, je me retourne, donc, comme je suis sur mon téléphone sur le côté gauche, je me retourne sur l'autre côté, je mets ma main sous ma joue, comme ça, puis je m'endors. Et puis, je m'endors vraiment comme si... comme ça. Le cul dirigé vers le mur. Donc... une sorte de sécurité, en fait. J'ai besoin d'avoir un mur derrière moi ou quelque chose sur lequel... Enfin, ouais, tout est dans la tête, mais voilà. Dès que je commence à m'endormir, c'est comme des hallucinations. Des fois, j'ai des... Enfin, tout à coup, je me réveille comme ça, mais je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, je rentre dans ce délire-là. Et après, j'essaie de me calmer, je me rendors, et c'est là où je pars. Jusqu'au matin... C'est le mécanicien d'à côté qui me réveille avec sa visseuse. C'est tout.
Je crois que j'aime pas dormir. À part le matin. J'adore de ouf la grasse mat. Je trouve que c'est vraiment une des plus belles choses au monde. Mais se coucher parce qu'il faut, c'est vraiment pas possible en fait. Et antinomique. Et j'aimerais bien des fois avoir des vies, des emplois du temps ou que d'autres gens. J'ai vraiment peur, ça me pèse beaucoup que les gens aillent se coucher parce qu'il faut. J'adorerais être entouré tout le temps de gens qui vont se coucher parce qu'ils ont sommeil. Voilà. Et je pense qu'on dormirait tous mieux si on allait se coucher quand on a le sommeil. Mais je pense que si je faisais plus de choses dans mes journées, je dormirais mieux aussi. Mais je vois pas pourquoi j'aurais à faire plus de choses dans la journée. Donc du coup, je vois pas pourquoi j'aurais à bien dormir.
Je m'appelle Mona Journeau, j'habite à Rennes et ces dernières années j'étais entre la France et Genève. Et je fais de la photographie argentique depuis bientôt un peu plus de 10 ans. En parallèle, je travaille en festival de cinéma et je travaille aussi avec des documentaristes pour les aider dans l'écriture de leurs scénarios. Et j'aime aussi beaucoup marcher, faire des randos et des explorations en ville ou dans des endroits plus sauvages. Quand j'avais 19 ans, j'étais dans des études qui étaient très prenantes, très intellectuelles, qui laissaient peu de place à autre chose et surtout qui étaient très éloignées d'un rapport sensible aux choses. Et à ce moment-là, ma mère a retrouvé son premier appareil photo argentique qu'elle avait acheté quand elle avait une vingtaine d'années, qu'elle n'utilisait plus, et elle m'a proposé de me le donner. Dans la ville où j'étais, il y avait un centre d'art pas loin de chez moi et je me suis inscrite à des cours pour apprendre à utiliser l'appareil, à aussi savoir développer soi-même ses pellicules, faire ses propres tirages, retoucher ses tirages. Donc j'ai commencé à prendre ces cours du coup le week-end à côté de mes études qui étaient la semaine. Et en fait, c'était un peu la parenthèse que je m'autorisais pour revenir à un rapport plus presque technique et mécanique et manuel à la production d'images, là où dans ma formation, j'étais en train de décortiquer, intellectualiser tout. Donc ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là. Ce qui m'intéresse en photo, vraiment, c'est la question du visage. J'ai du mal à prendre des photos sans présence humaine. Et en même temps, c'est quelque chose de très très long de réussir à que les gens s'abandonnent à l'objectif et arrêtent de composer une image. Aujourd'hui, on fait tout le temps des selfies, on a toujours constamment une manière de pouvoir se voir. On fait des réunions sur Zoom, on se voit soi-même parler, on appelle quelqu'un, on se voit soi-même sur WhatsApp. Du coup, j'ai l'impression que tout le monde est super habitué à presque comme un masque qui vient automatiquement sur le visage de l'image acceptable de soi-même, de l'image telle que nous renvoie la caméra, une image OK pour tous ces écrans. Mais en fait, quand on dort, c'est le seul moment où on lâche sur à quoi je ressemble, quelles expressions je fais, est-ce que ma bouche est ouverte, fermée, enfin voilà. Et du coup, prendre en photo des gens qui dorment, ça me permettait d'accéder à ce relâchement et je vais pas dire vérité parce que c'est très pompeux, mais juste ce visage qui n'essaye pas de ressembler à ce qu'il pense qu'il devrait ressembler pour être beau.
Donc je vais décrire un des portraits de Mona. Alors c'est une photo en noir et blanc. On voit le visage d'une femme. Un portrait assez rapproché. Son visage est immergé dans une sorte de constellation de papier, de carton blanc. Comme si elle était plongée dedans. Il y a plein de ces petits papiers carton déchirés autour d'elle. On ne sait pas trop où est-ce qu'elle est. On voit le haut de son visage, un peu de ses cheveux qui sont blonds. Elle a les yeux fermés. Et elle a l'air assez apaisée. Comme si elle se laissait absorber par cette matière, cet univers ou ce grand bain de papier blanc.
Pour moi, c'était une photo très apaisante de lâcher prise et de vraiment d'abandon de son corps. Mais à chaque fois que je la montre, ou souvent, les gens me renvoient quelque chose de beaucoup plus morbide en regardant cette photo. Les gens pensent en fait qu'elle est dans son cercueil ou que c'est quelqu'un qui est mort. Et ça m'a beaucoup frappée qu'on me fasse ce retour-là, parce que pour moi, c'est une photo au contraire de détente absolue du corps et pas du tout une photo morbide. Et du coup, je pense que c'est lié au fait que j'aime bien décontextualiser mes photos. J'aime bien jouer sur le fait qu'on comprend pas vraiment où sont les personnes, ils sont pas forcément dans des cadres auxquels on s'attend. J'ai volontairement joué sur la focale pour qu'en fait le fond soit assez flou et que son visage et les éléments autour d'elle soient nets, mais pour justement travailler le fait que son visage il s'extrait du contexte, comme si un peu elle flottait autour de sa face.
La chose que je fais normalement, c'est que j'allume mon ordi et je mets la plus nulle série au monde qui peut exister. Genre vraiment un truc tellement bidon que normalement j'aurais même honte d'avouer que je l'ai regardé. Mais comme ça, et je fais en sorte que l'écran reste presque à 45 degrés, comme ça il n'y a pas trop de luminosité non plus. Et je me tourne la tête parce que je dorme presque toujours avec sur le ventre. Et je fais en sorte que bien évidemment l'enregistrement ne peut pas le voir, mais que je pose mes... mes mains sur la tête, comme ça je peux quand même respirer et je crée un petit trou et j'entends en souffrant cette série nullissime que la plupart des fois tu sens juste des meufs crier ou juste dire des trucs bidons, genre vraiment dans les stéréotypes genrés, et normalement ça marche. Au cas où ça marche pas, un truc que j'ai commencé à faire de plus en plus, c'est de me carrément lever, parce que si je reste au lit, je vais juste m'énerver et voir le temps qui coule. Du coup, je vais me lever, je vais ouvrir la fenêtre de ma chambre, respirer profondément. Et vu que la plupart des fois, ça ne marche pas, parce que je m'ennuie à faire une espèce de méditation à deux balles, je vais dans la cuisine et je prépare le petit déjeuner, comme si j'allais faire des trucs. Du coup, je commence à préparer le café. J'allume pas le truc, mais je prépare le café. Je nettoie s'il y a des trucs qui ne vont pas. Et j'ai commencé à nettoyer la salle de bain. Et le fait, c'est que du coup, quand on habite en coloc, j'essaie vraiment de faire pas trop de bruit. Mais du coup, tu fais plus de bruit normalement quand tu fais comme ça. Et après, normalement, lorsque je fais tout ça, c'est vers 4h30-5h. Et c'est là où je sens... Genre, c'est assez bizarre parce que dès que je vois que le soleil commence à se lever, c'est là que c'est le moment où je suis plus fatiguée. Et du coup, là, normalement, j'arrive à m'endormir.
C'est là, Végéta. Après, lire une histoire. Et aussi après... Après, maman, elle reste avec moi. Et après... en fait, c'est une histoire qui aide à endormir. Ça raconte s'asseoir ou se coucher. Et ça aide à se reposer. Il faut mettre les mains sur son ventre.
Et lui, il t'aide à dormir?
Ouais, mais maintenant c'est lui qui m'endort. mais avant il m'endormait plus. Regarde ses beaux yeux. Ils sont jade bleu.
Alors moi j'ai aucun problème à m'endormir. Je suis capable de m'endormir très très vite. Parce que c'est comme si d'un coup j'avais un bâton qui me tombait sur la tête et parfois je suis en train de lire une histoire et puis sans m'en rendre compte je m'endors, ou bien je suis en train de regarder un film et puis je m'endors avant la fin. Mais si j'ai du mal, ouais, je crois que lire c'est le plus efficace pour moi pour m'endormir. Après des fois je regarde des séries, mais en vrai je vois bien que ça m'excite et puis que mon repos il est pas le même.
Ça m'arrive d'avoir des sifflements dans l'oreille. Je pourrais pas vraiment appeler ça des acouphènes parce que ce serait un peu malhonnête, parce qu'en soi c'est pas des vrais acouphènes, c'est vraiment pas très fort, mais dans ma chambre le soir quand il y a vraiment pas beaucoup de bruit, mais du coup en fait pour me sortir ces sifflements de la tête, parce que j'ai pas du tout assez de persévérance pour me concentrer sur d'autres bruits que ça, donc du coup si je fais rien et que juste je reste dans le calme, ben c'est mort, j'arrive pas à m'endormir. Alors je prends mon ordi et je me mets un film, généralement un film que j'ai déjà que je connais déjà, dont en tout cas que je connais vraiment bien. J'en ai plusieurs, comme ça j'ai tout un panel. Je branche mes écouteurs, je mets sur le côté gauche, mon corps se met sur le côté gauche, mais ma tête, je la mets un peu, j'essaye de la tourner un peu sur le côté droit, donc je suis toute tordue, mais ça c'est la position que je dois avoir pour vraiment avoir l'impression que je suis dans un équilibre corporel et mental. Je lance mon film, je prends un de mes écouteurs, que je mets dans mon oreille gauche, parce que c'est souvent celle qui est concernée par les sifflements, et ensuite, j'écoute un petit peu du film avec la luminosité au minimum. Donc en fait, je ne vois pas mon écran. Donc en fait, l'écran est noir. Mais comme c'est un film que je connais bien, j'arrive à associer les images au son. Donc j'arrive à me laisser emporter par l'histoire généralement et pas à penser à d'autres trucs et pas à entendre ce sifflement. Et ensuite, quand je sens que je vais un peu m'assoupir, je laisse le film tourner, mais je vais sur YouTube. Et là, je me choisis une ASMR, généralement un truc qui dure entre 4 et il y en a même qui durent 10 heures. Une ASMR parce qu'en fait, des fois, pendant les films, il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de son, où il y a, je sais pas, un personnage qui marche et il n'y a pas de musique. Donc du coup, en fait, si il n'y a pas d'autre fond sonore que le film, ça peut me faire réentendre le sifflement et je peux me réveiller, ou alors ça peut me réangoisser, ou alors je peux refocaliser dessus et après c'est de nouveau tout, faut recommencer le rituel, rechanger de film, enfin bref, un bordel sans nom. Et donc du coup, je me choisis une ASMR qui va assez bien avec l'ambiance du film. Je la lance, je règle le volume pour que ce soit ni trop fort pour couper les dialogues, ni pas assez fort pour que j'entende quand même dans les moments où il n'y a pas de musique et pas de dialogue. Et là, généralement, je peux dormir.
Thank you. What happened? How did I get here?
Anyone want some popcorn?
Yeah. Enfin, cette série photo et ce travail, c'est quand même né de quelque chose de totalement inconscient, même si là, ça paraît très construit. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur le sommeil et les rêves, parce que je me suis jamais dit, je vais prendre en photo des gens qui dorment. Je me suis rendu compte en développant et en regardant mes photos que je prenais depuis 8 ans, que régulièrement, dans à peu près chaque pellicule, donc je mets à peu près 3-4 mois pour finir une pellicule, il y avait une à deux photos de personnes qui dormaient. Et je me suis rendu compte que c'était une obsession au fur et à mesure, et c'est là que je me suis dit qu'il fallait peut-être les regrouper, les mettre en regard, les développer et voir s'il y avait quelque chose qui pouvait se faire. On avait un projet donc, d'exposition autour de ces photos du sommeil, et plus largement autour du sommeil, de faire une expo transdisciplinaire qui... Ben, pas juste montrer ses photos, mais réfléchir dans quel cadre, dans quel contexte on place le spectateur. Du coup, avec un travail sonore qui a été mené par Audrey Bercy et Maxime Rice, travail sur la lumière qui a été mené par Marisol Kim, pour vraiment travailler l'entrée dans l'expo, le rapport aussi à essayer de créer un espace de lâcher prise dans le visionnement de ses photos. Et en parallèle aussi, donc Maxime et Audrey ont fait un travail de recueil de rituels d'endormissement, un travail d'enregistrement documentaire autour de plein de personnes autour d'elles qui racontaient leurs rituels d'endormissement, et les visiteurs pouvaient écouter ces rituels dans une pièce avant d'entrer voir les photos. Ça, c'était la première version dans laquelle on a montré donc cette expo qui s'appelait « Dormir à contre-courant ». Ça a eu lieu à Lausanne au mois de septembre 2022 dans le cadre de État des lieux, qui était une exposition collective des espaces d'art lausannois, qui était dans l'ancien MUDAC, donc la Maison Godard, dans la cité à Lausanne. Et là, j'ai eu l'occasion de reprendre une partie des photos et aussi de représenter les rituels d'endormissement à Paris, à l'espace en cours dans le 20e arrondissement. C'était une invitation du collectif Braquage, qui est un collectif de promotion et de diffusion du cinéma expérimental, qui organise pendant 4 jours une sorte d'événement thématique autour du sommeil, où j'ai pu présenter mes photos aux côtés des travaux de deux autres photographes qui travaillent aussi sur la question du sommeil, Anaïs Hibert et Camille Buy. On a exposé nos trois propositions. Et en parallèle, Braquage a organisé toute une série de conférences sur le sommeil, beaucoup de projections de films expérimentaux, films documentaires, qui traite de ces questions-là. Et l'expo, enfin, tout ce programme continue jusqu'à lundi soir inclus, avec une projection, dernière projection à 20h, lundi 20 à 20h. Et l'expo, est encore visible demain lundi de 18h30 à 21h, à l'espace en cours dans le 21e arrondissement. Et on espère pouvoir encore faire tourner cette proposition ailleurs, peut-être, sous d'autres formes, avec d'autres personnes. L'idée, c'est de continuer à travailler ce sujet et montrer ces images et ces enregistrements et ce travail sonore avec d'autres personnes et de réinventer avec eux.
D'abord, j'essaie de trouver la bonne position. Des fois, dès qu'il y a un moustique qui tourne autour de mes oreilles, je me tourne. Chaque fois que je prends mon téléphone, j'allume la lampe et après je regarde où il est et je l'écrase. Et après, je m'endors.
Alors, je ne pense pas avoir de rituel d'endormissement puisque je ne pense que la phase endormissement, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Puisque pour moi, aller dormir, c'est me mettre dans un lit, fermer les yeux et je dors. J'ai pas de moment où j'essaie de dormir parce que je dors tout de suite. À un moment, j'ai une période où je mettais 10 minutes à m'endormir. J'ai commencé à flipper, je me suis dit « Ah, c'est ça l'insomnie, c'est dont tout le monde parle. » Je suis allée consulter un médecin, je lui ai dit « Voilà, j'ai des problèmes d'insomnie depuis quelques mois. Je m'endors au bout de 10 minutes, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Donc il m'a renvoyée en me traitant de folle. Depuis, j'ai compris qu'en fait, pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que je suis plutôt quelqu'un qui dort beaucoup. Je dormais 13 heures par nuit quand j'étais au collège. Je me mettais au lit, je m'endormais tout de suite. J'aime aussi beaucoup faire des siestes. Quand je dors pas 13 heures, je fais des siestes partout. Quand j'étais à la fac, je dormais sur des bancs, je dormais par terre, je dormais dans les couloirs, je dormais à la bibliothèque assise. Et j'adore dormir au endroit où j'ai pas le droit. Parce que ça gêne les gens et puis ils sont là, c'est quoi cette personne qui dort là? J'adore faire ça. J'adore aussi dormir et au moment où je me réveille, je fais semblant de dormir encore un peu pour écouter ce que disent les gens autour de moi. Je trouve que c'est super kiffant. Il y a un moment quand j'étais un peu plus jeune, j'osais pas aller me coucher trop tôt parce que j'avais peur de passer pour une vieille grand-mère, parce que c'était pas cool de se coucher à 21h. Ça fait vraiment la personne qui est pas cool. Et maintenant, j'assume que j'ai envie de me coucher, je vais me coucher. Maintenant que j'assume et que j'accepte le fait que je suis quelqu'un qui aime dormir, quand je me mets au lit, maintenant je vis avec quelqu'un, du coup je lui dis à lui, mais avant je me le disais à moi. La dernière chose que je fais avant d'éteindre la lumière et de dormir tout de suite, c'est « meilleur moment de la journée ».
Parfois, quand je suis vraiment bien organisé et que je suis bien dans mon emploi du temps, je peux faire une petite méditation, un petit peu de yoga, et puis là, je vais bien dormir. Ou alors je lis. J'aime bien lire des choses qui font à la fois un peu réfléchir, en même temps qui font rêver. Donc là, par exemple, en ce moment, c'est un livre de Baptiste Morisot qui s'appelle « Manière d'être vivant ». Et c'est sur son expérience en tant que pisteur de loups. Et c'est vrai que comme je travaille la journée dans la forêt en ce moment, et en plus de lire ça le soir, je fais plein de rêves avec des loups et des animaux. Et c'est peut-être pas désagréable, et en même temps, parfois, ça fait un peu peur.
Tous les soirs, pareil. Je me couche d'abord sur le dos. Je fais quelques respirations. Ensuite, je me tourne à gauche. Je reste un moment à gauche. Et pour vraiment m'endormir, je suis obligée de me tourner complètement à droite. Et là, je m'endors. Donc ça dure environ 2 à 3 minutes. Si je commence à l'envers, donc je commence à droite, ensuite je vais à gauche, je mets sur le dos, après sur le ventre, ça ne va pas, de nouveau à gauche, à droite. Je tourne toute la nuit, je ne trouve pas mon sommeil.
Ça me prend souvent plusieurs heures pour m'endormir, du coup c'est difficile de le résumer en une ou deux minutes. Mais ma plus vieille technique d'endormissement, et dont j'ai vachement le souvenir quand j'étais petit, et que j'arrivais pas à m'endormir et que j'écoutais des émissions de radio libre genre pendant des heures, et que je coupais, et à chaque fois en fait j'enlevais ma couette et j'essayais d'avoir le plus froid possible pour que au moment où je remette ma couette sur moi, une impression de chaleur me mette dans une torpeur qui me permette de lâcher et de m'endormir. Ça c'était avant, maintenant ça marche plus trop. Je suis passé à la lavande aussi. Je sais pas si ça me détend, mais ça me donne le signal que j'en ai marre de m'empêcher de dormir. Et du coup, c'est plutôt... ça me met dans une veille où j'essaie d'être de mon côté. Et du coup, de laisser toutes les choses du monde reposer et ne plus m'empêcher de dormir. J'aime beaucoup boire du lait, et même si je le digère de pas très bien. Et que c'est pas très... j'aime pas trop l'idée de boire du lait en plus. Mais j'avoue que ça me fait un truc où ça me permet d'aller au lit avec l'envie de dormir ou l'idée de cocon. En fait, je suis surpris par le sommeil quand il arrive. J'ai plus l'expérience de ce qui marche pas. ou de ce que, ou du fait de se retourner dans tous les sens. Et si, il y a une chose, je suis absolument incapable de dormir sans un oreiller entre les bras, en fait. C'est vraiment pas possible. Et ça arrive très souvent que je fasse des insomnies ou des nuits quasiment sans sommeil si je suis chez des gens ou à l'hôtel. Et que, enfin, je dors rarement à l'hôtel, hein, mais plus chez des gens du coup. Quand j'ai pas, en général, je mets mes vêtements sous ma tête et je prends mon oreiller dans mes bras. Parce que vraiment, je peux pas dormir sans un oreiller dans les bras, en fait. Enfin, l'oreiller, c'est aussi pour ça, c'est que ça me permet de moins sentir le poids du corps et de vraiment trouver un nouveau point d'équilibre en reposant sur cet oreiller, en fait, parce que j'ai l'impression que sinon, la gravité m'écrase et m'empêche de dormir, alors que si j'ai ça, elle enveloppe, on est quelque chose qui enveloppe cet oreiller au lieu d'être le récipient qui est... sur lequel on appuie, je sais pas, il y a un truc comme ça où je fais corps avec la gravité sur quelque chose. Ma manière de faire la sieste depuis 2 ans ou presque, 2 ans et demi que j'ai ça, j'ai ce que j'appelle un tapis de fakir. C'est une espèce de truc champ de fleurs, je crois, la marque ou autre chose. Mais il y en a plein différents. C'est des petits pics là d'acupression sur lesquels je me pose et en fait ça. Ça me fait complet. Au bout de 15-20 minutes, je lâche complètement, musculairement et nerveusement, et je m'endors 1/10 de seconde. Et en fait, je suis trop trop bien d'avoir juste pu lâcher. Et voilà, c'est ma manière de faire la sieste, parce qu'en fait, sinon, mes manières de faire la sieste, de me laisser aller comme un gros épanchement de moi, quand je me réveille, je suis vraiment fâché contre tout le monde, je suis très très méchant, je suis vraiment pas de bonne compagnie, et du coup, j'aime pas trop dormir la journée, parce que je souffre et je fais souffrir les autres en me réveillant. Alors que cet endormissement de 5 secondes, ça me fait pas ça.
Ok, alors moi, ce qui est très important avant de m'endormir, c'est d'aller remplir ma bouteille. Parce que la nuit, bon, je bois 1 litre d'eau et du coup, si j'ai pas ma bouteille, ça va pas, quoi. Du coup, ça, c'est la première chose. Et après, si j'ai un peu de la peine à m'endormir ou comme ça, eh ben, j'ai des super idées qui me viennent en tête. Et du coup, à côté de mon lit, j'ai toujours un crayon et un bout de papier. Et dès que j'ai les idées, je dois vite les noter, donc un peu à l'aveugle comme ça au milieu de la nuit, parce que sinon, ben, j'oublie. Puis voilà.
Avant de m'endormir, je regarde toutes mes photos à la chambre. Et puis je parle à papa, je lui dis que, voilà, que je lui pardonne de comme il était dur avec moi. Mais je le prie, je fais mes prières, je parle à maman, je parle à Nono, à François. Et puis après, je chante. Je chante une chanson, mais malheureusement, ma voix, elle a... Quand je fais les aigus, et mon chat qui me regarde comme je sais pas quoi. Après, des fois, je fais... Voilà. À la maison, je pense beaucoup de choses. Mais pas tous les soirs. Puis après, je pense... Je parle à la zia. J'ai rêvé un jour, c'était vers le matin, 4h, 5h, je ne sais plus. J'ai vu la zia habillée avec sa sacoche. Elle me dit, mais tu fais quoi? On part ou bien on part pas? Elle était habillée à côté de mon lit. Et puis moi, je me suis réveillée, mais elle était loin. Alors ça, je ne peux pas oublier alors. Elle était habillée avec son petit manteau, ce manteau mi-saison. Ça, je ne peux pas oublier. Et de la façon que je me suis réveillée, le rêve, voilà, elle avait disparu. J'y crois pas tellement à ces choses-là, mais là, non, je ne peux pas oublier. Et des fois, par exemple, je suis seule, je vois comme des ombres, quelqu'un qui me touche, c'est une présence.
Thank you.
expliquer rapidement, étape par étape, en fait, quand je réalise un tirage, donc je pars du négatif photo, qu'on introduit dans ce qui s'appelle un agrandisseur, ce qui est grosso modo une sorte d'appareil avec une lumière assez puissante qui passe dans une lentille. Et le négatif est entre la lumière et cette lentille. Du coup, ça permet de projeter le négatif sur une surface donc, qui sera ensuite le papier qu'on mettra. Et on peut le régler pour régler la taille. Il y en a différentes sortes, mais en gros, c'est un appareil qu'on peut lever et du coup, ça élargit de plus en plus le tirage, ou quand on le rapproche, ça le rétrécit. Et du coup, ça permet de choisir son agrandissement, mais aussi de choisir la dose de lumière qu'on met. Et on peut aussi intégrer des filtres qui gèrent le contraste. Donc au moment où la lumière sort, avant qu'elle aille sur le négatif, on peut introduire des filtres qui gèrent le contraste sur ces photos. Et c'est souvent relié à une sorte de petit minuteur qui permet de compter combien de secondes exactement de manière très précise on va allumer la lumière, du coup exposer la lumière et donc le négatif sur le papier. En gros, ça permet de pouvoir compter précisément combien de temps on expose, avec quelle ouverture, donc à quelle puissance de lumière on expose le négatif, et avec quel contraste. Et une fois, en fait, après l'idée c'est de faire des tests sur des petits bouts de papier pour pas viser des grandes feuilles à chaque fois. Donc des tests avec plus ou moins de lumière, plus ou moins de contraste, jusqu'à trouver vraiment le rendu qui me paraît bien. Et une fois que ce rendu est bien, là on peut vraiment tirer sur la grande feuille. Ça c'est pour la partie vraiment exposition du papier, enfin d'une exposition du papier, exposition du négatif sur le papier. Et ensuite, à chaque fois qu'on expose ce négatif sur le papier, il faut ensuite le passer dans 3 bains différents pour réussir à ce que le papier se révèle et que ça active les sels d'argent qui sont dans l'émulsion qui est sur le papier, pour qu'on puisse voir le tirage. Du coup, on passe tout dans 3 bacs d'eau avec des différents produits. Le premier, c'est donc le révélateur. Donc c'est là où la photo se révèle. Ensuite, il faut prendre donc le papier et le mettre dans le bain d'arrêt, qui en fait arrête ce processus de révélateur pour être sûr que ça continue pas à travailler les produits, etc. Et ensuite, on met dans le fixateur, c'est le dernier bain, qui là permet de fixer les produits pour qu'on puisse ensuite l'exposer dehors à la lumière et que la photo disparaisse pas. Et ensuite, il faut bien sûr rincer tout ça parce que les produits peuvent faire des réactions et des taches sur le papier. Donc il faut rincer tout ça assez longtemps. Et ensuite, on a du coup la photo définitive. Et tout ça se fait à la lumière rouge, parce qu'il ne faut pas que ce soit exposé à la lumière du jour. Par contre, la lumière rouge ne réagit pas avec le papier. Uniquement pour des tirages en noir et blanc. Je parle de tirages en noir et blanc depuis le début. Un labo, c'est quand même un espace sombre avec des lumières rouges. Et quand j'étais au début que je révélais, je m'étais toujours dit, mais quel est le meilleur moyen pour draguer un garçon, lui proposer une initiation? Je tiens à dire que ça ne marche pas du tout. Hein. J'ai fait une initiation de 4 heures avec un mec avec qui il ne s'est jamais rien passé. Donc ne pensez pas que le labo est un endroit érotique. Voilà.
Yeah. the dark room. I burned a lot of bridges. Some castles were made of sand. Only then.
Je lis et je me couche. Je dois bouger, bouger. Je trouve pas ma position. Voilà. Parce que je m'endors en bougeant. C'est bizarre, non?
Moi, j'ai acheté un iPhone il y a un an et demi ou deux ans. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai rentré mes données de sommeil ou de repos dedans. Et j'ai demandé à mon iPhone de me rappeler quand est-ce que je dois aller au lit. Puis du coup, à genre 22h30 ou 23h, il y a mon téléphone qui se met en mode repos et il dit moment de détente avant d'aller dormir et tout ça. Et en fait, au début, je le vivais comme une blague un peu bête. Et puis surtout, je sais pas, j'étais un peu mal à l'aise que mon téléphone me dise ça. Et en fait, je suis pas très en accord avec le fait que mon téléphone me dise quand est-ce que je dois dormir. Et en fait, ça me rassure vachement. Et du coup, les fois où je suis avec des gens et tout ça, et mon téléphone, d'un coup, il s'éveille et puis il me dit « Hey, redescends un peu dans l'énergie, ça va être bientôt le moment où t'as dit que tu voulais dormir et tout. » Et ben du coup, je me dis « Ok, ben je commence à un peu préparer mes affaires, me mettre dans ma chambre, faire ma petite tisane de CBD. » Là, je me cale dans mon lit. Et puis je commence à plus parler à qui que ce soit. Je suis un peu dans un rapport hyper intérieur. Et après, je suis peut-être un peu addict à tout ça. Mais du coup, je regarde un truc pas intéressant sur Netflix en général. Et puis là, au bout d'un moment, je me tourne sur mon côté gauche. Et là, ça met à peu près une minute ou deux minutes et je m'endors. Et du coup, après, je suis là genre, yes, trop cool. Du coup, je suis trop contente. J'éteins mon ordinateur, j'éteins la lumière et je m'endors.
Deux Parisiens sur trois dorment mal. Or, on peut recharger une batterie, on ne recharge pas aussi facilement un organisme auquel seul le sommeil peut redonner son potentiel. La vie urbaine et son agitation, les soucis de la journée et leur tension nerveuse mettent à l'épreuve l'organisme et ferment bien des fois sournoisement la porte à la venue normale du sommeil. Les somnifères, on en fait un usage démesuré, mais ils ont leur revers, l'accoutumance. Mieux vaut suivre quelques conseils apparemment anodins, mais efficaces. Quelques mouvements de gymnastique, par exemple, devant la fenêtre ouverte pour détendre le corps et l'esprit. Un peu de musique peut aussi contribuer à obtenir une bonne relaxation.
Moi, ce qui m'intéressait là dans le sommeil, c'était de prendre en photo des gens, mais pas des gens qui dorment la nuit dans leur lit aux horaires réglementaires et autorisés. Voilà. Mais des gens qui s'endorment dans l'espace public, dans les transports, au travail, dans des moments de détente, dans des pauses, enfin, un peu dans les moments où soit le corps lâche parce qu'ils sont vraiment épuisés, soit parce qu'ils s'autorisent à dormir dans des endroits qui sont pas pensés pour. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que, déjà, quand on dort, on est quand même dans un état de vulnérabilité par rapport à l'extérieur. Et du coup, c'était aussi de montrer des corps qui se sentent en sécurité dans l'espace public et qui acceptent cette vulnérabilité et de un peu s'abandonner en s'endormant, en ayant confiance dans ce qui peut surgir alors qu'ils sont pas dans leur habitat chez eux. Du coup, ça me permet de questionner un peu ces questions de rapport de confiance les uns envers les autres. Et du coup, le fait de prendre en photo des gens qui dorment dans des espaces qui sont pas leur chambre et pas la nuit, ça met en place cette question-là de est-ce que tout le monde peut avoir un accès à des siestes de qualité? Qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir dormir dans l'espace public? Qu'est-ce que ça veut dire aussi que certains corps, j'ai quelques photos de personnes qui vraiment s'endorment sur leur lieu de travail ou dans les transports et qui traduisent quand même un épuisement que peut faire le travail au corps et aux esprits des gens pour vraiment s'endormir d'un sommeil très profond dans des lieux très bruyants, comme des gares ou des rues très passantes.
Et est-ce que tu serais d'accord de nous décrire une photo abstraite aussi? Parce que du coup, dans l'exposition, il y a un jeu entre des portraits de gens qui s'abandonnent au sommeil et des photos abstraites qui évoquent parfois le rêve, parfois quelque chose de planant.
Y a une photo que j'aime bien. Alors, elle va être dure à décrire du coup parce que on peut y voir beaucoup de choses et elle n'est pas très figurative. Au premier plan, il y a une sorte de sol qui est blanc, donc on suppose qu'il y a peut-être de la neige ou de la glace ou de l'écume, avec des morceaux de roche ou de mousse ou de glace qui émergent. Et juste derrière ce sol, donc qui est vraiment dans la partie inférieur de la photo, comme une petite bande en bas. Alors en fait, c'est ce qui émerge de ça, des branches d'arbres recouvertes de givre, mais qui du coup font aussi penser à des coraux, en fait, qui sont un peu entre les deux. Et tout le reste de la photo, c'est comme une sorte d'aplat complètement avec beaucoup, beaucoup de grains, très gris, comme une sorte de brouillard où on devine des formes à l'arrière, mais on ne voit pas du tout le paysage. Et c'est comme s'il y avait un mur opaque derrière. Et j'aime bien cette photo déjà à cause du contexte dans lequel je l'ai prise, c'est que c'est une randonnée en raquette où on a marché pendant 4 heures pour arriver à un point de vue. Et arrivé à ce point de vue, il n'y a pas eu de point de vue puisqu'il y avait un énorme brouillard qui ne s'est jamais levé. Et au lieu de repartir en ne prenant aucune photo, j'ai quand même pris cette photo qui est un peu un anti-point de vue ou anti-photo de récompense touristique de l'ascension. Et finalement, j'étais super surprise en la développant de voir qu'il y avait quand même énormément de détails qui apparaissaient dans cette brume, que finalement j'avais mis un peu mon attention sur le sol, sur des détails de matière au ras du sol qui sont les choses auxquelles j'aurais pas du tout prêté attention et que je n'aurais pas inclus dans mon cadre s'il y avait eu ce magnifique panorama tant attendu. Du coup, c'est un peu mon anti-photo de paysage. Et en même temps, c'est pour ça que je l'aime bien. Et le lien au rêve, c'est que, en fait, elle m'évoque ce rapport qu'on a dans l'espace, dans les rêves, où souvent, souvent, je suis dans des espaces qui sont à la fois très familiers et en même temps très étranges, et où la sensation du haut, du bas, de la profondeur des lieux peut être très abstraite et surtout peut être remise en question constamment. Des choses qui me semblent loin peuvent être d'un coup très proches. des choses qui sont d'une certaine matière peuvent changer. Et je trouve que cette photo, elle évoque ça, à comment les espaces et les matières sont extrêmement mouvants dans les décors, dans les lieux qu'on traverse quand on rêve. À côté des expos, quand je peux montrer mes tirages donc que je réalise moi-même en argentique, je fais aussi des scans de mes photos que je présente sous forme de série au format numérique et que je présente sur mon site internet monajournaux.com. Attends, j'ai un doute, c'est ça mon site? Ah oui, c'est ça.
Merci à toutes les personnes qui nous ont partagé leurs témoignages et merci aussi à Mona Journaux de nous avoir accordé cette interview.
Vous pouvez aller voir l'exposition jusqu'à lundi 20 mars. Elle se situe à l'Espace en cours, dans le 20e arrondissement de Paris. Bisous, à bientôt.
C'était Quartier Libre, une proposition dédiée à la création sonore et aux écoutes expérimentales, imaginée par Audrey Bercier et Maxine Reiss, sous l'impulsion de Radio Vostok. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle pépite sonore. D'ici là, restez vivantes.